À 5 heures du matin, Rastignac va chercher Lucien. « Mon cher, vous êtes logé dans le système de votre rue, » lui dit-il pour tout compliment. « Soyons les premiers au rendez-vous sur le chemin de Clignancourt, c'est de bon goût et nous devons de bons exemples. »« Voici le programme, » lui dit de Marsay dès que le fiacre roula dans le faubourg Saint-Denis. « Vous vous battez au pistolet à 25 pas, marchant à volonté l'un sur l'autre jusqu'à une distance de 15 pas. Vous avez chacun 5 pas à faire et 3 coups à tirer, pas davantage. » Quoi qu'il arrive, vous vous engagez à en rester là l'un et l'autre. Nous chargeons les pistolets de votre adversaire et ses témoins chargent les vôtres. Les armes ont été choisies par les 4 témoins réunis chez un armurier. Je vous promets que nous avons aidé le hasard. Vous avez des pistolets de cavalerie. Pour Lucien, la vie était devenue un mauvais rêve. Il lui était indifférent de vivre ou de mourir. Le courage particulier au suicide lui servit donc à paraître en grand costume de bravoure aux yeux des spectateurs de son duel. Il resta, sans marcher, à sa place. Cette insouciance passa pour un froid calcul. On trouva ce poète très fort. Michel Chrestien vint jusqu'à sa limite. Les 2 adversaires firent feu en même temps, car les insultes avaient été regardées comme égales. Au premier coup, la balle de Chrestien effleura le menton de Lucien, dont la balle passa à 10 pieds au-dessus de la tête de son adversaire. Au second coup, la balle de Michel se logea dans le col de la redingote du poète, lequel était heureusement piqué et garni de bougrans. Au troisième coup, Lucien reçut la balle dans le sein et tomba. « Est-il mort ?» demanda Michel. « Non, » dit le chirurgien, « il s'en tirera. »« Tant pis, » répondit Michel. « Oh oui, tant pis, » répéta Lucien en versant des larmes. À midi, ce malheureux enfant se trouva dans sa chambre et sur son lit. Il avait fallu 5 heures et de grands ménagements pour les transporter. Quoique son état fût sans danger, il exigeait les précautions. La fièvre pouvait amener de fâcheuses complications. Coralie étouffa son désespoir et ses chagrins. Pendant tout le temps que son ami fut en danger, elle passa les nuits avec Bérénice en apprenant ses rôles. Le danger de Lucien dura 2 mois. Cette pauvre créature jouait quelquefois un rôle qui voulait de la gaieté, tandis qu'intérieurement elle se disait « Mon cher Lucien meurt peut-être en ce moment ». Pendant ce temps, Lucien fut soigné par Bianchon. Il dut la vie au dévouement de cet ami si vivement blessé, mais à qui l'Arthez avait confié le secret de la démarche de Lucien en justifiant le malheureux poète. Dans un moment lucide, car Lucien a eu une fièvre nerveuse d'une haute gravité, Bianchon, qui soupçonnait d'Arthez de quelque générosité, questionna son malade. Lucien lui dit n'avoir pas fait d'autre article sur le livre de d'Arthez que l'article sérieux et grave inséré dans le journal d'Hector Merlin. À la fin du premier mois, la maison Fendant et Cavalier déposa son bilan. Bianchon dit à l'actrice de cacher ce coup affreux à Lucien. Le fameux roman de l'archer de Charles IX, publié sous un titre bizarre, n'avait pas eu le moindre succès. Pour se faire de l'argent avant de déposer le bilan, Fendant, à l'insu de Cavalier, avait vendu cet ouvrage en bloc à des épiciers qui le revendaient à bas prix au moyen du colportage. En ce moment, le livre de Lucien garnissait les parapets des ponts et les quais de Paris. La librairie du quai des Augustins, qui avait pris une certaine quantité d'exemplaires de ce roman, se trouvait donc perdre une somme considérable par suite de l'avélissement subi du prix. Les 4 volumes Indus qu'elle avait achetés 4 francs 50 centimes étaient donnés pour 50 sous. Le commerce jetait les hauts cris et les journaux continuaient à garder le plus profond silence. Barbet n'avait pas prévu ce lavage, il croyait au talent de Lucien. Contrairement à ses habitudes, il s'était jeté sur 200 exemplaires. Et la perspective d'une perte le rendait fou. Il disait des horreurs de Lucien. Barbet prit un parti héroïque. Il mit ses exemplaires dans un coin de son magasin par un entêtement particulier aux avares et laissa ses confrères se débarrasser des leurs à vil prix. Plus tard, en 1824, quand la belle préface de d'Arthez, le mérite du livre et 2 articles faits par Léon Giraud eurent rendu à cette œuvre sa valeur, Barbet vendit ses exemplaires un par un au prix de 10 francs. Malgré les précautions de Bérénice et de Coralie, il fut impossible d'empêcher Hector Merlin de venir voir son ami mourant, et il lui fit boire goutte à goutte le calice amer de ce bouillon, mot en usage dans les librairies pour peindre l'opération funeste à laquelle s'étaient livrés Fendant et Cavalier en publiant le livre d'un débutant. Martinville, seul fidèle à Lucien, fit un magnifique article en faveur de l'œuvre. Mais l'exaspération était telle, et chez les libéraux et chez les ministériels, contre le rédacteur en chef de l'Aristarque, de l'Oriflamme et du Drapeau Blanc, que les efforts de ce courageux athlète, qui rendait toujours 10 insultes pour une au libéralisme, nuisirent à Lucien. Aucun journal ne releva le gant de la polémique, quelque vives que fussent les attaques du bravo royaliste. Coralie, Bérénice et Bianchon ferma la porte à tous les soi-disant amis de Lucien qui jetèrent les hauts cris. Mais il fut impossible de la fermer aux huissiers. La faillite de Fendant et de Cavalier rendait leurs billets exigibles en vertu d'une des dispositions du Code de commerce, la plus attentatoire aux droits des tiers qui se voient ainsi privés des bénéfices du terme. Lucien se trouva vigoureusement poursuivi par Camusot. En voyant ce nom, l'article comprit la terrible et humiliante démarche qu'avait dû faire son poète pour elle si angélique. Elle l'en aima 10 fois plus et ne voulut pas implorer Camusot. En venant chercher leur prisonnier, les gardes du commerce le trouvèrent au lit et reculèrent à l'idée de l'emmener. Ils allèrent chez Camusot avant de prier le président du tribunal d'indiquer la maison de santé dans laquelle ils déposeraient le débiteur. Camusot accourut aussitôt rue de la Lune. Coralie descendit et remonta, tenant les pièces de la procédure qui, d'après Landau, avait déclaré Lucien commerçant. Comment avait-elle obtenu ces papiers de Camusot? Quelle promesse avait-elle faite? Elle garda le plus morne silence, mais elle était remontée quasi morte. Coralie joua dans la pièce de Camille Maupin et contribua beaucoup à ce succès de l'illustre hermaphrodite littéraire. La création de ce rôle fut la dernière étincelle de cette belle lampe. À la 20e représentation, au moment où Lucien rétabli commençait à se promener, à manger et parler de reprendre ses travaux, Coralie tomba malade. Un chagrin secret la dévorait. Bérénice a toujours cru que, pour sauver Lucien, elle avait promis de revenir à Camusot. L'actrice eut la mortification de voir donner son rôle à Florine. Nathan déclarait la guerre au gymnase dans le cas où Florine ne succéderait pas à Coralie. En jouant le rôle jusqu'au dernier moment pour ne pas le laisser prendre par sa rivale, Coralie outrepassa ses forces. Le gymnase lui avait fait quelques avances pendant la maladie de Lucien. Elle ne pouvait plus rien demander à la caisse du théâtre. Malgré son bon vouloir, Lucien était encore incapable de travailler. Il soignait d'ailleurs Coralie afin de soulager Bérénice. Ce pauvre ménage arriva donc à une détresse absolue. Il eut cependant le bonheur de trouver dans Bianchon un médecin habile et dévoué qui lui donna crédit chez un pharmacien. La situation de Coralie et de Lucien fut bientôt connue des fournisseurs et du propriétaire. Les meubles furent saisis. La couturière et le tailleur, ne craignant plus le journaliste, poursuivirent ces deux bohémiens à outrance. Enfin, il n'y eut plus que le pharmacien et le charcutier qui fissent crédit à ces malheureux enfants. Lucien, Bérénice et la malade furent obligés pendant une semaine environ de ne manger que du porc sous toutes les formes ingénieuses et variées que lui donnent les charcutiers. La charcuterie, assez inflammatoire de sa nature, aggrava la maladie de l'actrice. Lucien fut contraint par la misère d'aller chez Lousteau réclamer les 1000 francs que cet ancien ami, ce traître, lui devait. Ce fut, au milieu de ses malheurs, la démarche qui lui coûta le plus. Lousteau ne pouvait plus rentrer chez lui rue de la Harpe. Il couchait chez ses amis, il était poursuivi, traqué comme un lièvre. Lucien ne put trouver son fatal introducteur dans le monde littéraire que chez Flicoteaux. Lousteau dînait à la même table où Lucien l'avait rencontré pour son malheur le jour où il s'était éloigné de l'Arthèse. Lousteau lui offrit à dîner, et Lucien accepta. Quand, en sortant de chez Flicoteaux, Claude Vignon, qui y mangeait ce jour-là, Lousteau, Lucien et le grand inconnu qui a remisé sa garde-robe chez Saint-Manon voulurent aller au café Voltaire prendre du café, jamais ils ne purent faire 30 sous en réunissant le billon qui retentissait dans leur poche. Ils flânèrent au Luxembourg, espérant y rencontrer un libraire, et ils virent en effet un des plus fameux imprimeurs de ce temps, auquel Lousteau demanda 40 francs et qui les donna. Lucien partagea la somme en 4 portions égales et chacun des écrivains en prit une. La misère avait éteint toute fierté, tout sentiment chez Lucien. Il pleura devant ses 3 artistes en leur racontant sa situation. Mais chacun de ses camarades avait un drame tout aussi cruellement horrible à lui dire. Quand chacun eut paraphrasé le sien, le poète se trouva le moins malheureux des 4. Aussi, tous avaient-ils besoin d'oublier et leur malheur et leur pensée qui doublait le malheur. Lousteau courut au palais royal et jouait les 9 francs qui lui restaient sur ses 10 francs. Le grand inconnu, quoiqu'il eût une divine maîtresse, alla dans une ville maison suspecte, se plonger dans le bourbier des voluptés dangereuses. Vignon se rendit au petit rocher de Cancale dans l'intention d'y boire 2 bouteilles de vin de Bordeaux pour abdiquer sa raison et sa mémoire. Lucien quitta Claude Vignon sur le seuil du restaurant en refusant sa part de ce souper. La poignée de main que le grand homme de province donna au seul journaliste qui ne lui avait pas été hostile fut accompagnée d'un horrible serrement de cœur. Que faire ? Lui demanda-t-il. À la guerre comme à la guerre, lui dit le grand critique. Votre livre est beau, mais il vous a fait des envieux. Votre lutte sera longue et difficile. Le génie est une horrible maladie. Tout écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au ténia dans l'estomac, y dévore les sentiments à mesure qu'ils y éclosent. Qui triomphera? La maladie de l'homme ou l'homme de la maladie? Certes, Il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. À moins d'être un colosse, à moins d'avoir des épaules d'Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. Vous êtes mince et fluet, vous succomberez, ajouta-t-il en entrant chez le restaurateur. Lucien revint chez lui en méditant sur cet horrible arrêt dont la profonde vérité lui éclairait la vie littéraire. « De l'argent !» lui criait une voix. Il fit lui-même à son ordre 3 billets de 1 000 francs chacun, à 1, 2 et 3 mois d'échéance, en y imitant avec une admirable perfection la signature de David Séchard, et il les endossa. Puis, le lendemain, il les porta chez Métivier, le marchand de papier de la rue Serpente, qui les lui escompta sans aucune difficulté. Lucien écrivit aussitôt à son beau-frère en le prévenant de la nécessité où il avait été de commettre ce faux, en se trouvant dans l'impossibilité de subir les délais de la poste. Mais il lui promettait de faire les fonds à l'échéance. Les dettes de Coralie et celles de Lucien payées, il resta 300 francs que le poète remit entre les mains de Bérénice, en lui disant de ne lui rien donner s'il demandait de l'argent. Il craignait d'être saisi par l'envie d'aller au jeu. Lucien, animé d'une rage sombre, froide et taciturne, se mit à écrire ses plus spirituels articles à la lueur d'une lampe en veillant Coralie. Quand il cherchait ses idées, il voyait cette créature adorée, blanche comme une porcelaine, belle de la beauté démourante, lui souriant de 2 lèvres pâles, lui montrant des yeux brillants comme le sont ceux de toutes les femmes qui succombent autant à la maladie qu'au chagrin. Lucien envoyait ses articles aux journaux. Mais comme il ne pouvait pas aller dans les bureaux pour tourmenter les rédacteurs en chef, les articles ne paraissaient pas. Quand il se décidait à venir au journal, Théodore Gaillard, qui lui avait fait des avances et qui, plus tard, profita de ses diamants littéraires, le recevait froidement. « Prenez garde à vous, mon cher, vous n'avez plus d'esprit. Ne vous laissez pas abattre, ayez de la verve !» lui disait-il. Ce petit Lucien n'avait que son roman et ses premiers articles dans le ventre. S'écriaient Félicien Vernou, Merlin et tous ceux qui le haïssaient quand il était question de lui chez Doria ou au Vaudeville. Il nous envoie des choses pitoyables. Ne rien avoir dans le ventre, mot consacré dans l'argot du journalisme, constitue un arrêt souverain dont il est difficile d'appeler une fois qu'il a été prononcé. Ce mot, colporté partout, tuait Lucien à l'insu de Lucien.